Bienvenue si vous nous rejoignez, voici le journal de Clara Le Coq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le dirigeant libanais Saad Hariri est le bienvenu en France. Emmanuel Macron lance l'invitation, vous l'entendrez, alors que la démission surprise du Premier ministre alimente toujours la crise politique au Liban.
Ils sont contre la politique du gouvernement qu'ils jugent trop libérale. Les syndicats CGT, FO et Solidaires, entre autres, appellent une nouvelle journée de grève. Ce jeudi, à gauche, chacun défilera dans son coin. La France insoumise et le Parti communiste sont-ils irréconciliables?
Ça y ressemble bien, Guillaume. Et en politique toujours, Frédéric Seyss reviendra dans son billet politique sur la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée hier. Les questions identitaires s'invitent dans le débat. Macron ne l'avait pas prévu, nous dira-t-il.
Avant cela, reportage à peine croyable en Italie et témoignage de journalistes menacés de mort par la mafia.
Et puis nous irons en Grèce où des pluies diluviennes ont fait au moins 15 morts dans la région d'Athènes. La faute pour beaucoup aux infrastructures trop vétustes. Mais d'abord, 450 millions de dollars pour une toile de 65 cm de hauteur sur 45 en largeur. Pas n'importe laquelle, évidemment. Une toile signée Léonard de Vinci, intitulée Salvator Mundi. La représentation du Christ portant un orbe, un globe, dans sa main gauche, tout en utilisant sa main droite pour bénir. 450 millions de dollars, donc, le record du tableau le plus cher du monde a été pulvérisé cette nuit chez Christie's à New York. Il était détenu jusque-là par un Picasso, trois fois moins cher. Quand l'art brasse l'argent du monde, il faut dire que Salvator Mundi est le dernier tableau de Léonard de Vinci appartenant à un collectionneur privé. Marco Voltaire a assisté à la vente aux enchères cette nuit.
And so, ladies and gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the Salvator Mundi.
Les enchères sont lancées dans la grande salle de vente chez Christie's au Rockefeller Center de Manhattan. Dans le public, Robert Simon, un homme à l'histoire bien particulière. Il avait acheté la peinture il y a une dizaine d'années pour seulement 10 000 dollars, pensant qu'il s'agissait de l'œuvre d'un élève de Da Vinci.
Le tableau avait été horriblement transformé en une image plutôt effrayante. Mais on reconnaissait une qualité phénoménale à certains endroits, tout particulièrement. Particulièrement la main du Christ qui bénit.
Le travail de restauration est alors confié à Diane Modestini qui ôte les couches de vernis. Dans son atelier new-yorkais, elle nous raconte le moment de vérité.
Il y a eu un moment particulier où il n'y avait plus la place pour le moindre doute. Cela ne pouvait être que lui. Ce moment-là était très bouleversant, un vrai moment de choc.
Adjugé vendu pour 400 millions de dollars plus commission, ça fait 450 millions. Un nouveau record et peut-être une nouvelle vie pour ce tableau que Robert Simon espère bientôt voir dans un musée.
I feel very much like a proud father.
Je ressens la fierté d'un père qui a éduqué un enfant depuis le début et qui le voit maintenant arriver au sommet de sa carrière.
The pinnacle of his career.
Un musée peut-être un jour donc. Aucun indice pour le moment sur l'identité du nouveau propriétaire de ce tableau. C'était un reportage de Marco Voltaire à New York pour France Culture. Non, ce n'est pas un exil, seulement une invitation. Une invitation qui ne tombe en tout cas pas au hasard. Emmanuel Macron a proposé à Saad Hariri, le premier ministre démissionnaire libanais, de venir en France quelques jours. Saad Hariri se trouve toujours en Arabie Saoudite depuis l'annonce surprise de sa démission. Libre ou pas libre, les Libanais sont sceptiques. Et au milieu, Emmanuel Macron entend assumer son rôle de médiateur au Proche-Orient.
Je souhaite en effet que la situation au Liban soit pleinement pacifiée et que les choix politiques puissent être faits conformément aux institutions. Nous avons besoin d'un Liban fort, d'une intégrité territoriale au Liban et nous avons besoin d'avoir des dirigeants qui soient justement libres de leur choix et de les exprimer. Je me suis entretenu avec le prince héritier Mohamed Ben Salman et avec le Premier ministre Saad Hariri. Et nous sommes convenus que je l'invitais pour quelques jours en France avec sa famille. C'est aussi un geste d'amitié, une volonté marquée de la France de contribuer au retour au calme et à la stabilité au Liban.
Voilà pour la prise de parole d'Emmanuel Macron hier en marge de la COP23 à Bonn en Allemagne. Et en attendant la possible venue de Saad Hariri en France, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a été envoyé hier en Arabie Saoudite où il doit y rencontrer aujourd'hui le dirigeant libanais. Ça ressemble bien à un coup d'État au Zimbabwe. Nous l'évoquions hier, l'armée a pris le contrôle de la capitale Harare. Le président Robert Mugabe, au pouvoir depuis 37 ans, y est en résidence surveillée depuis plus de 24 heures maintenant. Lisa Fabian, la correspondante de RFI pour France Culture dans la région, est arrivée sur place où le calme a visiblement repris le dessus.
La vie semble suivre son cours dans la capitale zimbabwéenne. Les restaurants et les bars sont remplis des clients habituels, les magasins ouverts et le trafic régulier au centre-ville et en périphérie. Quelques véhicules blindés sont bien positionnés au carrefour et de petits groupes de militaires surveillent bien distraitement certaines rues, mais leur présence n'a rien de particulièrement impressionnant. Rien ne semblerait anormal s'il n'y avait quelques éclats de tension, comme cet homme qui crie au milieu d'un restaurant « Viva Zimbabwe » avant de se lancer dans une tirade enflammée contre le couple Mugabe ou cet autre encore qui déclare spontanément « Ceci est le premier jour de notre indépendance ». Depuis 4 heures mercredi matin, précise-t-il, c'est l'heure à laquelle les militaires se sont exprimés à la télévision nationale. Même si la méthode est critiquée par certains Zimbabwéens, ils sont nombreux à espérer le début d'un changement dans leur pays. Mais de nombreuses questions restent encore en suspens. Robert Mugabe, qui est retenu dans sa résidence, ne s'est toujours pas exprimé et on ne sait pas encore si le vieux chef sera finalement forcé de quitter le pouvoir. On ignore aussi où se trouve sa femme, la très controversée Grace Mugabe.
Grace Mugabe, qui avait été choisie par son mari pour lui succéder il y a quelques jours au détriment du vice-président Emmerson, d'où les tensions avec l'armée dans le pays. Un nouvel appel à la grève est lancé aujourd'hui, jeudi, en France, contre la politique libérale du gouvernement. Et pour la première fois depuis le début du quinquennat, Force ouvrière s'y associe aux côtés de la CGT, Solidaire et de certaines organisations jeunesse. La CFDT, la CFTC ou la FAGE préfèrent rester sur le trottoir, ne voulant pas jouer le rapport de force avec l'exécutif. Semblant d'unité, également côté politique à gauche, car une fois encore, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ne défilera pas aux côtés des syndicats, contrairement au Parti communiste. Rassemblement fixe contre cortège parisien cet après-midi à Paris. Comme si, Stéphane Robert, l'échec de l'offensive anti-Macron était déjà acté.
Une journée de mobilisation contre Macron le 16 novembre. Bon, on va y aller, avait commenté sans grand enthousiasme Jean-Luc Mélenchon il y a 15 jours. En revanche, pas question de défiler aux côtés du Parti communiste et de son allié, la CGT. Les élus de la France insoumise se retrouveront donc en un point fixe à Paris, pas très loin de la place de la République, devant le Bataclan. Pourtant, les appels à l'unité contre la politique qualifiée de libérale et inégalitaire d'Emmanuel Macron fusent des deux côtés. Mais l'impossible alliance entre le Parti communiste et la France insoumise mine ses rêves de grand soir anti-libéral. Si l'on remonte à la rentrée, l'échec a été initié par Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il a refusé de se rendre à la fête de l'UMA début septembre et un peu plus tard lorsqu'il a organisé sa propre journée de mobilisation. Du coup, son appel du 23 septembre a déferlé à 1 million sur les Champs-Élysées à fait long feu. Et fin octobre, il a lui-même reconnu une forme d'échec, concédant que pour le moment, c'est Macron qui a le point. Mais les désaccords avec le PCF sont beaucoup plus anciens. Ils tiennent au fait qu'on a d'un côté un vieux parti, le Parti communiste, qui n'a pas de leader mais encore des élus, et qui essaie tant bien que mal de conserver ses bastions. De l'autre, un jeune mouvement, la France insoumise, qui a un leader mais dont les troupes militantes sont évanescentes et qui veut faire table rase du passé en même temps que la Révolution. On voit là que le clivage entre l'ancien et le nouveau monde traverse aussi la gauche de contestation.
La gauche alliée sur certains dossiers à l'Assemblée nationale. Hier soir, les députés ont adopté à main levée le budget des collectivités territoriales pour l'année prochaine. Les crédits alloués aux relations entre territoires urbains et ruraux représenteront moins de 4% des aides. La nouvelle gauche, justement, le Parti communiste et la France insoumise dénoncent un mauvais coup porté à la politique de la ville. Et puis, dès ces chiffres trimestriels publiés ce matin par l'INSEE, le taux de chômage en France a augmenté de 0,2% au troisième trimestre. Il s'élève maintenant à 9,4% en métropole. Nous en arrivons à ce procès qui doit se dérouler aujourd'hui jeudi. Le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, comparaît cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Créteil sur citation directe du parquet. Il doit répondre de sa gestion de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Plusieurs contrats passés sous sa présidence sont suspectés d'être entachés de favoritisme, Florence Turme.
C'est l'association Anticor qui, la première, dépose plainte en 2015 pour dénoncer une gestion entachée selon elle d'irrégularités et qu'elle présente comme un véritable gaspillage de l'argent public. Le ministère de la Culture adresse dans la foulée un signalement au parquet de Créteil qui ouvre une enquête préliminaire pour favoritisme, enquête distincte de celle visant Agnès Salle qui a succédé à Mathieu Gallet à la tête de l'INA et qui sera condamnée pour détournement de fonds publics en raison de ses frais de taxi démesurés. En 2016, la Cour des comptes détaille dans son rapport provisoire provisoire le bilan financier des contrats passés auprès de sociétés en communication et en stratégie entre 2010 et 2014 sous la présidence de Mathieu Gallet. La Cour estime fréquent et très coûteux ce recours à des prestations extérieures. L'enquête confiée par le parquet à la brigade de répression de la délinquance économique va se concentrer sur deux sociétés. D'une part, Roland Berger Stratégie, sélectionné pour conseiller l'INA au terme d'un appel d'offres de seulement 5 jours ouvrés. De l'autre, la société Balise, présidée par Denis Pingot, employé régulièrement pendant 2 ans pour des missions de conseil attribuées dans des conditions discutables selon l'accusation. Les débats s'annoncent très techniques sur ces notions d'attribution. L'INA est un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. Il n'est pas soumis au code des marchés publics, mais doit se conformer aux obligations légales prévues par un décret de 2005 pour les appels d'offres. La défense de Mathieu Gallet, qui compte également soulever une question prioritaire de constitutionnalité, entend plaider la relaxe, mais aucun de ces deux conseils n'a répondu à nos multiples sollicitations.
Florence Turme qui suivra donc ce procès pour France Culture.
Vous écoutez Les Matins de France Culture, il est 8h11, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Une manifestation de soutien à la liberté d'expression est organisée à Ostie en Italie aujourd'hui.
Une manifestation de soutien entre autres au journaliste qui s'est fait tabasser la semaine dernière par un membre du clan mafieux dans cette commune du littoral romain. Il tournait alors un reportage sur la mafia italienne. La scène avait largement été diffusée sur les réseaux sociaux. Manifestation aujourd'hui car en Italie, ce cas est loin d'être isolé. Une trentaine de journalistes sont menacés de mort, édifiant. Mathilde Imberti en a rencontré certains.
Paolo Borometti n'arrive jamais seul à un rendez-vous et très rarement à pied, mais dans une voiture blindée, escorté par 5 policiers. Ce journaliste d'agence de presse de la province de Raguse en Sicile est condamné à mort par 3 clans mafieux.
J'ai subi des agressions physiques, on a essayé de brûler ma maison, je reçois des menaces, y compris sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai jamais renoncé à raconter ce qu'il se passe dans ma région. Une région où encore aujourd'hui la mafia rackette, où les rapports entre mafia et politique sont plus que problématiques. Plus personne n'écrivait sur ce territoire depuis l'assassinat du journaliste Giovanni Spampinato dans les années 70.
Le nombre de journalistes vivant sous escorte policière en Italie, 30 selon les associations professionnelles. Aucune donnée officielle n'est publiée par sécurité. Une escorte à laquelle Marinella Natale a dû se résoudre après plusieurs reportages télévisés dans la province de Caserte dénonçant la Camorra.
Le chef de clan Francesco Schiavone a donné l'ordre de m'abattre. Moi ça ne me suffit pas de le savoir en prison, j'enquête pour savoir d'où vient son argent. C'est une mafia qui fait des affaires dans le bâtiment, dans le secteur des déchets. Ils n'utilisent plus les armes pour tuer aujourd'hui, mais ils continuent de faire des victimes. Dans ma région, des enfants meurent à cause des déchets pourris qu'ils font enterrer.
Autre vie sous escorte, celle de Federica Angeli, du quotidien La Repubblica. Elle écrit sur les clans d'Ostie, où a été tabassé la semaine dernière un journaliste de la RAI.
Je me rends bien compte que ce coup de tête qui a été médiatisé a permis de réaliser combien ces clans sont violents. Moi, je subis leurs intimidations depuis 4 ans, par exemple le signe de croix qu'ils font à mes enfants quand ils les croisent dans la rue, ou les photos qu'ils prennent de mes enfants à l'école et qu'ils m'envoient. C'est extrêmement dur de devoir vivre sous escorte, mais des jours comme aujourd'hui, je me dis que ça vaut la peine.
La manifestation cet après-midi à Ostie vise à soutenir les journalistes menacés, soutenir aussi le droit de rester informé sur la criminalité organisée, ses liens avec la politique, ses méthodes.
Un reportage de notre correspondante en Italie, Mathilde Imberti. Avant-dernier jour de débat et de prise de parole à la COP23 à Bonn en Allemagne, le discours de la représentante des États-Unis est notamment très attendu aujourd'hui car les Américains souhaitent toujours quitter l'accord de Paris. Hier, Emmanuel Macron a enjoint l'Europe à prendre le relais pour financer notamment le groupe d'experts du climat à l'ONU. Il estimait également à la tribune que le seuil de l'irréversible a été franchi. Épreuve ce matin d'ailleurs que le climat se dérègle. Des pluies diluviennes ont fait ces 2 derniers jours au moins 15 morts et des dizaines de disparus en Grèce, dans la banlieue d'Athènes. Du jamais vu, raconté par Angélique Kourounis.
Un torrent de boue a déferlé sur l'ouest de la banlieue à 50 km d'Athènes et en quelques minutes, un tiers de la ville de Neapérama a disparu sous la boue. Les routes qui vont vers la mer ont été littéralement cassées en plusieurs endroits, des dizaines de voitures et maisons emportées. Au fil de la journée, le bilan n'a cessé de s'alourdir, mais les 200 pompiers mobilisés ont prévenu qu'il risque de s'alourdir, d'autant que toute la nuit, la pluie très forte n'a cessé de tomber. Le gouvernement a décrété une journée de deuil national et la Commission européenne s'est, elle, dite prête à aider la Grèce. La plupart des victimes sont des personnes âgées piégées dans des maisons isolées ou des appartements en sous-sol. Les 3 localités touchées, Néapolis, Péramos, Mandra et Megara sont parmi les plus pauvres de la région où les infrastructures de l'État font défaut, mais selon les médias grecs, si le bilan est si lourd, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de travaux pour faire face à une telle catastrophe et surtout parce que les lits des rivières ont été bétonnés par des promoteurs qui ont construit dessus sur fond de services urbanistiques corrompus. L'électricité et les communications sont interrompues, les écoles vont rester fermées, un millier d'habitations sont détruites. Il faudra au moins 5 jours pour un semblant de retour à la normale, d'autant que les débris se sont accumulés jusqu'au toit des maisons et que l'accès pour les bulldozers est très difficile. Plusieurs îles grecques ont également été touchées par ces inondations, dont l'île de Simi.
Le temps à présent en France de ce jeudi qui débute presque classique. De gros nuages au nord de la Loire, un beau soleil au sud et des températures fraîches entre 1 et 13 degrés aujourd'hui. Une météo morose donc au-dessus de la maison de la radio, mais qu'importe, ce matin Guillaume, nous sommes contents.
Eh oui, on est contents, alors on va le dire, Clara, on va remercier les auditeurs qui n'ont jamais été aussi nombreux à l'écoute de France Culture. C'est la 6e vague consécutive de hausse des auditeurs, donc plus nombreux qui écoutent plus longtemps France Culture. Eh bien, vous savez ce qu'il nous reste à faire, Clara. On va tenter de continuer longtemps à retenir leurs oreilles.